Radio Air Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement. Vous écoutez le podcast
Your Voice, la voix des experts avec Claude Gendron de l'association Sauvons le Climat.
Bonjour Claude Gendron, membre et ancien président de l'association Sauvons le Climat. Vous êtes l'un des auteurs du livre blanc Climat Énergie, publié récemment et remis à tous les candidats à l'élection présidentielle. Avez-vous reçu des retours de lecture de votre ouvrage ?
Pas encore à ce jour, aucun.
Ah,
on imagine que les équipes des candidats sont bien occupées en ce moment, mais on attend.
Je vois. Quelle serait la phrase, quel serait le message que vous souhaiteriez transmettre à ces 12 candidats qui n'ont pas répondu à l'envoi de votre ouvrage ?
C'est clair, la phrase qui est sur la couverture de notre bouquin, c'est « Ne gaspillons pas un nouveau quinquennat ». On ne veut pas dire par là qu'il n'y a pas eu de mesures prises pour lutter contre le changement climatique, mais l'efficacité des mesures n'était pas le maître mot de toutes les politiques qui ont été adoptées par le passé. Là, vraiment, on insiste beaucoup maintenant sur l'efficacité. Il faut arrêter les belles phrases, les beaux engagements, etc. Certes, il en faut. Il faut donner de la vision. Il faut se donner des objectifs ambitieux. Mais il faut surtout, derrière, mettre au point des politiques efficaces.
Vous évoquez dans ce livre la question de la compréhension du climat, les différentes périodes de grand froid en hiver et de canicule en été en France, 1709 pour le grand froid et 2003 pour la canicule. Pour les non-initiés, clairement, quel lien faites-vous entre pollution de l'air et changement climatique ?
Alors en fait, c'est un fait que les changements climatiques et en particulier l'élévation de la température a des effets sur la santé. Il y a les périodes de grand froid, évidemment, mais il y en a de moins en moins. Et surtout, il y a des périodes de canicule qui seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères. Or, ces périodes de canicule ont un effet sur la mortalité, puisqu'on observe des excès de mortalité dans ces périodes. Donc, vraiment, il faut avoir en tête, c'est un aspect qui n'est pas souvent abordé, il faut avoir en tête que les changements climatiques ont également un effet sur la mortalité directement par l'élévation de température. Mais il y a aussi des effets indirects, l'augmentation de certains agents pathogènes, des bactéries, des vecteurs plus connus tels que les moustiques. Tout ça a un effet sur la propagation d'un certain nombre de maladies et d'agents pathogènes. Alors, une fois qu'on a ça en tête, il faut avoir conscience que en luttant contre le réchauffement climatique, on lutte aussi contre un certain nombre de pollutions, puisque par définition, lutter contre les changements climatiques, c'est réduire fortement et si possible se passer un jour des énergies fossiles. Or, la combustion des énergies fossiles émet un certain nombre de polluants dans l'atmosphère et donc, notamment dans les zones urbaines, lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre revient à lutter contre un certain nombre de pollutions. Attention quand même, il y a certaines actions, c'est pas la majorité de loin, mais il y a certaines actions qui sont menées pour lutter contre les changements climatiques qui vont un petit peu à l'inverse. Deux exemples. Le premier, c'est la combustion du bois, puisque l'utilisation de biomasse est un des vecteurs de lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Mais cette combustion du bois, si elle est mal faite, donc dans de mauvaises chaudières ou de mauvaises cheminées, conduit à l'émission de particules fines qui sont mauvaises pour la santé. Donc il faut absolument que cette utilisation du bois pour le chauffage ou des pellettes, etc., soient faites vraiment dans de bonnes conditions de combustion. L'autre exemple, c'est la ventilation mécanique des logements, pour ne pas dire l'aération des logements. En fait, on a tendance, en isolant de plus en plus les logements, la construction, on a tendance à avoir des bâtiments de plus en plus étanches à l'air. Or, s'il n'y a pas une ventilation suffisante et s'il n'y a pas d'aération régulière des logements, ben, il peut y avoir accumulation d'agents pathogènes dans les logements. Donc, c'est un autre point sur lequel il faut veiller. Bon, à part ces deux exceptions, il faut quand même retenir que lutter contre le réchauffement climatique revient à lutter contre un certain nombre de pollutions, donc à améliorer la santé.
Et justement, s'il fallait rebondir sur cette question du bâtiment, vous en parlez dans cet ouvrage. Les bâtiments neutres en carbone sont pas si fréquents, les bâtiments sont assez anciens. Comment voyez-vous justement cette rénovation du bâtiment neutre en carbone?
Alors, il faut effectivement faire la différence entre la construction neuve et la rénovation des bâtiments anciens. Dans la construction neuve, puisque quand on construit, ben, il est facile d'intégrer de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques d'isolation, etc. Donc dans la construction neuve, c'est beaucoup plus facile et en général moins coûteux, même si les nouveaux produits, les nouvelles techniques coûtent un peu plus cher que les anciennes. L'augmentation du coût est relativement modeste. Les professionnels parlent de 10 à 15%. C'est à peu près l'ordre de grandeur d'augmentation du coût de la construction neuve. Par contre, il en va tout autrement dans la rénovation, puisque quand on reprend un bâtiment qui a été construit il y a plus de 30-40 ans avec des normes qui était beaucoup plus lâche à l'époque, là, ça peut coûter très cher. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une combinaison de la réduction de consommation énergétique du logement, mais également de sa réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à peser sur l'économie d'énergie. Bien sûr, c'est important pour le portefeuille de réduire sa consommation d'énergie, mais la réduire à l'excès, comme on le voit dans un certain nombre de documents, ça peut coûter très très cher et on ne consacre plus assez d'argent comparativement au changement de moyens de chauffage, parce que en fait, pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en l'occurrence, dû au chauffage, il faut en général changer de moyen de chauffage. Il faut abandonner le fioul et le gaz pour passer à l'électricité ou à la biomasse. Et si on consacre trop d'argent à l'isolation du bâtiment, eh bien on n'en consacre plus assez au changement de moyen de chauffage. Donc là, il faut vraiment une action équilibrée entre les deux.
Votre ouvrage s'appuie sur de nombreuses recherches, celles du GIEC notamment, et de la RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension. Mais en même temps, ce livre, il fait essentiellement l'apologie du nucléaire. Vous remettez en question l'utilisation des énergies renouvelables à 100% sur la politique de certains pays en Europe, notamment l'Allemagne. Mais face à l'utilisation massive des énergies fossiles et la question actuelle autour du gaz russe, quel mix énergétique serait-il utile dans l'immédiat et dans l'avenir?
Alors, dans l'immédiat, à court terme, on va dire les 10 à 20 prochaines années, il est très clair que les scénarios actuels privilégient la durée de vie du parc nucléaire actuel. Dans les lois prises au début du quinquennat actuel ou du précédent, il était visé une réduction très importante et rapide nucléaire. Bon, maintenant, beaucoup de gens s'accordent, même des candidats à l'élection plutôt écolo et de gauche, reconnaissent maintenant que la prolongation du parc actuel est la bonne solution. Elle est efficace et elle coûte de loin la moins chère. Donc je crois que là-dessus, il y a un assez bon accord, ce qui n'empêche pas de continuer le développement des énergies renouvelables. À plus long terme, les scénarios, ceux qu'on a le plus étudiés, bien sûr, sont ceux de RTE, puisque RTE, le réseau de transport d'électricité haute tension, est le gestionnaire, en fait, des équilibres du réseau. Ce RTE a produit un rapport qui analyse, en fait, 6 scénarios, depuis un scénario qui est tout renouvelable jusqu'à un scénario qui comporte plus de 50 gigawatts de nucléaire. C'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui, un peu moins que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est à l'horizon 2050. Donc, dans ces scénarios, nous, ce qu'on approuve, puisque ça rejoint nos prévisions et nos propres scénarios, nous avons produit un scénario qui s'appelle Negatep. Dans ces scénarios, en fait, on se rend compte que une part trop importante d'énergie renouvelable intermittente conduit à un certain nombre de problèmes qui sont pour certains techniquement difficiles à résoudre, c'est le cas du stockage par exemple de l'électricité, mais également les scénarios avec beaucoup de renouvelables conduisent à des surcoûts, à des extensions de réseaux électriques très importantes et surtout à des problèmes de stabilité de fonctionnement et de sécurité d'alimentation. Parce que gérer un parc électrique avec une part très importante d'énergie intermittente, fatale au gré de la météo, ça peut devenir très scabreux dans des périodes de forte demande. Comment assurer la sécurité d'alimentation électrique d'un pays quand il n'y a pas de vent et pas beaucoup de soleil, ce qui est le cas dans les périodes anticycloniques d'hiver. Donc ça c'est un vrai problème, ce qui nous fait, nous, préférer de loin, et c'est ce que propose RTE, mais c'est également ce que propose l'Agence internationale de l'énergie, les académies en France, c'est de recourir à un scénario avec encore beaucoup de nucléaire et une part raisonnable d'énergie renouvelable intermittente pour pouvoir gérer l'ensemble. Alors, il reste quand même une critique importante du scénario du RTE que nous avons fait, c'est que en fait les hypothèses de consommation d'électricité à 2050 nous semblent vraiment insuffisantes. Nous sommes convaincus, comme beaucoup d'experts et de cercles d'études, nous sommes convaincus que la consommation d'électricité devra être nettement plus importante que ce que prévoit RTE si on veut arriver vraiment à se passer de façon importante des énergies fossiles à cet horizon 2050. Donc ça, c'est un point qui devrait faire l'objet d'un complément d'étude de la part de RTE.
Comment allez-vous convaincre que le nucléaire est une énergie décarbonée auprès des citoyens et qu'il n'y a pas de problème lié aux déchets? Vous en parlez dans l'ouvrage, mais de manière assez pointue.
Il y a effectivement un effort d'information considérable à faire. Bon, on observe malgré tout que les lignes bougent actuellement. Les prises de position sur le nucléaire sont en train d'évoluer favorablement et du coup, il y a pas mal d'informations qui s'échangent, beaucoup d'interventions qui se font sur les sujets. Nous, à son climat, on est en train de publier une série de 4 notes et 4 articles sur le nucléaire. Reprenons le fait que le nucléaire est une solution efficace pour lutter contre le changement climatique en détaillant quatre aspects. Le premier, c'est la peur du risque d'accident. Et là, quand on remet les choses sur la table correctement et quand on regarde de très près ce qu'il y a déjà eu comme accident nucléaire, quels ont été leurs effets sur la santé, sur la mortalité éventuellement, ce qui n'a été que le cas de Tchernobyl. On regarde également tout ce qui a été fait pour améliorer la sûreté des centrales existantes, notamment en France. On peut raisonnablement écarter le risque d'accident nucléaire jusqu'à des probabilités infimes qui n'ont plus rien à voir avec les effets d'autres activités humaines, y compris dans la production d'électricité. Donc ça, c'est le premier article qui est sorti il y a à peu près 2 à 3 semaines et qui est disponible sur notre site internet. Le deuxième, ça a été sur les déchets nucléaires, déchets qui sont mis en avant par un certain nombre d'opposants, certains disant qu'il n'y a pas de solution pour traiter les déchets nucléaires. Quand on regarde de près, si les déchets nucléaires sont gérés d'une façon très sérieuse, très responsable et très contrôlée, et aujourd'hui il y a bien une filière de traitement pour toutes les catégories de déchets. Traitement veut dire, dans un certain cas, isolement du déchet par rapport à l'environnement jusque dans des durées très longues. Donc cet article fait le point sur la question. Le troisième article reprend une critique qui est souvent faite, c'est que le nucléaire coûte cher. Alors là, les démentis sont maintenant nombreux, et notamment on voit bien dans les scénarios de RTE que ce sont bien les scénarios avec le plus de nucléaire qui reviennent au total le moins cher. Pourquoi ? Certains disent les énergies renouvelables ont des coûts qui baissent de plus en plus et sont maintenant compétitives par rapport au nucléaire. Ce n'est pas vrai si on regarde les coûts complets, c'est-à-dire que le kilowattheure produit par une installation intermittente, il n'apporte pas le même service. Pour avoir le même service, il faut ajouter d'autres dispositions qui ont leur coût, et ces dispositions, c'est des accroissements de réseaux de transport d'électricité, ce sont ce qu'on appelle des moyens de backup, c'est-à-dire des moyens de production en secours quand les énergies renouvelables ne sont pas disponibles, quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, et tout ça finalement coûte cher et revient à coûter plus cher que le coût du nucléaire, qui va augmenter, certes, dans le temps, ça, tout le monde l'admet, parce que on veut de plus en plus de sûreté, ça a un coût, évidemment. Donc, la question du coût du nucléaire, il faut la regarder de près. Et j'annonçais 4 notes. La quatrième est en cours de préparation. Elle reviendra sur une critique qui est quelquefois faite, disant le nucléaire, c'est une énergie du passé. Il faut qu'on arrive à s'en passer, il faut faire autre chose, il faut faire des renouvelables. Non, le nucléaire est une énergie qui est très très récente comparativement à toutes les autres. Et il y a encore des perspectives d'amélioration des processus de transformation qui sont très intéressantes. La note sortira dans une à deux semaines.
Radio et environnement, la radio de l'éducation à l'environnement.